Mission Vision est produite en partenariat avec le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Mission Vision avec Alain Renaud.
Bonjour et bienvenue à ce déjà huitième épisode de Mission Vision, réalisé en partenariat avec le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, une émission toute consacrée à la mobilité inclusive, en compagnie de deux invités qui consacrent une bonne partie de leur énergie au sein de leurs organisations respectives. Qui voient à cette chose. Je vous les présente à l'instant après ce petit indicatif. C'est donc avec plaisir que je reçois aujourd'hui en studio mon collègue Yvon Provencher, qui est agent de mobilisation et de défense de droit au RAM, au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour Yvon.
Bonjour Alain.
Et puis en ligne, directement de Granby, Antoine Perrault, directeur général et responsable de la protection des renseignements personnels au RAC, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Bonjour Antoine.
Bonjour Alain.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour, comme je le disais, parler de mobilité inclusive aujourd'hui. D'ailleurs, pour débuter, j'irai directement avec une question très, très précise. Yvon, peut-être je commence avec toi, Yvon, peut-être nous résumer un peu là, qu'est-ce que c'est que l'aménagement inclusive.
Oui, la mobilité inclusive, c'est une notion qui se recoupe avec d'autres. Là, on parle on va parler de ville inclusive, on va parler d'aménagement inclusif, on va parler de mobilité inclusive. La mobilité inclusive, c'est essentiellement ce qui permet à des usagers, des gens qui habitent sur le territoire, de pouvoir se déplacer selon leur mode qui leur convient. Habituellement, les notions de mobilité inclusive, on ne va pas inclure ce qui est véhicule. Là. Ça va être ce qui est plutôt transport actif, donc piétonnier, cycliste et tout. Tout ce qui est à pied, en fait, là, que ce soit en roulant ou pas.
Okay.
Donc, la mobilité inclusive, c'est ce qui favorise ces déplacements-là, c'est de façon très, très, très générale. Fait que c'est sûr que ça va inclure aussi des notions comme l'accessibilité universelle, la convivialité et ainsi de suite. Mais c'est ça, là. C'est ce qui te permet de te déplacer à pied dans une ville, peu importe le
piéton ou cycliste.
C'est ça. Peu importe que tu marches ou que tu sois sur un autre véhicule. Mais on va pas inclure les véhicules dans cette notion.
OK. Donc, on parle pas de transport en commun.
Parce que ça permet de se déplacer dans la ville. C'est vrai que sur des distances plus longues, là, on va pouvoir, on va ajouter des éléments comme le transport collectif. Puis le transport collectif, là, c'est pas transport par taxi, là. C'est transport en commun, transport adapté, effectivement, ça aussi, ça fait partie de l'équation.
OK, OK. Et puis, je sais pas si Antoine, tu peux rajouter ou ça va avec la définition d'Yvon.
Je pense que Yvon a fait une très bonne description.
Et puis tantôt on parlait hors d'onde que soit on parlait de mobilité inclusive ou d'aménagement inclusif. Si on parle d'aménagement inclusif à ce moment-là, Antoine, ce serait justement un des aspects de la mobilité inclusive, l'aménagement inclusif.
Oui, l'aménagement inclusif, c'est beaucoup plus la façon dont on va aménager les infrastructures d'une ville. Fait que c'est une partie de la mobilité inclusive, mais ce n'est pas uniquement ça, la mobilité inclusive. C'est beaucoup plus large, la mobilité.
OK.
Ceci dit, c'est quand même un ingrédient essentiel. Là. C'est, si on n'a pas les aménagements, ben on peut pas avoir de la mobilité inclusive.
C'est ça, effectivement.
Ouais.
J'ai oublié dans ma présentation de vous demander un peu ce qu'étaient vos fonctions au sein de vos deux organismes respectifs. Yvon, si t'es avec nous aujourd'hui, c'est en grande partie parce que l'aménagement, la mobilité inclusive, c'est quand même un de tes gros dossiers. Fait que je sais pas si tu peux juste rapidement faire un peu, nous présenter un peu ton travail au sein du RAM, tes fonctions et...
Oui, ben, mes fonctions se divisent en deux grandes catégories. Il y a une partie plus collective, donc ça, c'est toute la partie représentation sur des instances de concertation. Et puis l'autre partie, c'est le soutien individuel. Alors, je fais deux choses très, très différentes. Là. Le collectif, c'est mon dossier, c'est les déplacements. Au RAM, on appelle ça les déplacements sécuritaires.
Mm-hmm.
Donc, ça inclut les notions d'aménagement, ça inclut les notions de mobilité inclusive. Je suis là-dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Depuis plusieurs années, hein, si je ne me trompe pas.
Ah oui, je fais ça depuis, je ne sais plus, là, plus qu'une dizaine d'années, je dirais.
OK, OK. Mais ouais, c'est ça, je confondais avec le temps que tu as passé au RAM depuis presque une vingtaine d'années. Là, mais c'est ça, tu n'étais pas nécessairement exclusivement dans la mobilité.
Non, c'est ça. C'est ça. Okay. Les questions reliées à la mobilité, là, je suis là-dedans depuis, je dirais, à peu près une dizaine d'années, là, pour faire facile.
Okay.
Puis l'autre partie de mon travail, c'est du soutien individuel. Et ça, c'est complètement différent.
Okay.
J'accompagne... Au RAM, on est un organisme de défense collective des droits, mais on est... aussi un organisme qui soutient nos membres dans des démarches par rapport à l'exercice de leurs droits personnels. Donc, mm-hmm. quelqu'un, par exemple, qui aurait vécu une situation de discrimination voudrait entreprendre des recours, soit auprès de la ville, soit auprès d'une entreprise, ou voudrait aller aussi à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Bien, mon travail, c'est d'accompagner ces gens-là dans leur démarche qu'ils veulent faire. Donc, c'est autant identifier les démarches possibles, mais c'est aussi accompagner lors des rencontres de conciliation avec la Commission. Ça fait partie de mon travail aussi, de les accompagner à ce moment-là.
Et puis, un cas, par exemple, pourrait être justement un cas de difficulté, de problème de mobilité, ou quelqu'un qui n'aura pas eu accès à... un type de transport en commun, par exemple, ou...
On a eu un membre... problème, ben, effectivement, il est arrivé des situations où des membres s'estimaient lésés par rapport à la STM, par exemple. Mm-hmm, mm-hmm. Des accès au métro, pas être capable de faire reconnaître l'accompagnateur.
Exact.
Mais il y a eu aussi des démarches... il y a un membre qui avait, il y a quelques années, qui avait entrepris une démarche auprès de la ville pour... se plaindre des aménagements du quartier des spectacles.
OK.
Mais c'est ça, là.
On pourra revenir, d'ailleurs.
Oui. On pourra aller là, si tu veux.
Oui, ben oui.
Donc, c'est ça, là. Ça couvre vraiment l'ensemble des secteurs où, tu sais, j'ai accompagné des gens, par exemple, qui avaient eu des difficultés d'accès parce qu'il y avait un chien guide.
OK.
J'ai fait différentes choses, là.
Parfait. Puis, ben, Antoine, je te passerai la parole aussi. Je vais juste peut-être nous présenter, te présenter aux auditeurs par rapport à ton travail au RAC.
Merci. Antoine Perrault, je suis directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec depuis presque 8 ans maintenant.
OK.
Je m'occupe de... Ben, j'assure la direction, la coordination de l'organisation. Et au sein de la permanence, c'est moi qui s'occupe principalement des dossiers en transport et en déplacement sécuritaire.
OK.
Depuis maintenant, bientôt 8 ans, ça aussi.
OK. Juste pour peut-être juste le noter, c'est que disons que Yvon, sur ces dossiers, on est dans le Montréal métropolitain, donc la ville de Montréal, Longueuil et aussi Laval, un peu de Montérégie, et alors que toi, Antoine, je pense que tu couvres avec ben, peut-être en présentant le RAC aussi, comment fonctionne le RAC, que tu couvres l'ensemble du territoire du Québec. À ce niveau-là aussi, si on peut dire.
Oui, globalement, le RAC est un regroupement national. C'est pas un regroupement qui regroupe des individus, mais plutôt des associations. Donc, le RAM est membre au RAC, en fait. Mm-hmm. Le RAM représente la région Montréal métropolitain, Laval et Montérégie. mais on couvre l'ensemble du Québec. Donc, ce qui va plus nous intéresser en termes de dossiers transport, c'est les dossiers qui sont nationaux, qui relèvent vraiment du gouvernement provincial.
OK, OK. Alors que nous, c'est ça, on va plutôt avoir affaire avec les municipalités de la région de Montréal.
Oui, puis on est très, on peut être très, très, tu sais, les pieds dans le béton, là. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le terrain, là. On discute de choses très spécifiques, très okay. précises.
Et puis si on fait une différence entre ce qui va relever du provincial, Antoine, par rapport à ce qui sera plus municipalité, même dans une région ou Montréal, je sais pas si...
Ouais. Il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect où on accompagne nos membres. Fait que c'est sûr qu'on a quand même une expertise au niveau des dossiers qui vont relever plus des municipalités.
Okay.
Parce que parfois, on a accompagné nos membres dans certaines situations. Nos membres nous appellent pour nous poser des questions sur l'installation des signaux sonores, sur, par exemple, l'installation d'un aménagement cyclable.
Mm-hmm.
Fait qu'on les accompagne là-dedans. On a une expertise dans ces aménagements-là, dans l'accessibilité des aménagements, mais on a aussi une portée provinciale, donc on va s'intéresser aussi à des enjeux qui sont beaucoup plus nationaux. J'amenais le signal sonore tantôt. T'sais, c'est sûr que l'installation du signal sonore se fait au niveau d'une municipalité, mais c'est à travers une norme provinciale, une okay. norme émise par le ministère des Transports du Québec. Donc on joue vraiment sur ces deux fronts-là.
OK, donc c'est comme quand même important là, justement là, de, le fait que si on a des politiques nationales, peut-être qu'à ce moment-là, au niveau municipal, au niveau des regroupements, quand tu parles des membres du RAC, comme tu le spécifies, c'est un membre du RAC, c'est une association, là. C'est pas un individu. Et puis donc, chaque membre du RAC, comme le RAM, dans le fond, nous, on fait des représentations auprès des municipalités parce que entre autres, il y a des règlements, on va dire national, provincial. C'est un peu ça aussi, là, dans le fond, c'est qu'il va y avoir des normes, puis c'est comme un peu au regroupement, aux membres, de faire en sorte qu'ils soient appliqués, parce que souvent, c'est justement, c'est pas le cas. Il y a des normes provinciales, nationales, et les municipalités les respectent pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut résumer?
C'est un cas de figure, mais il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure. Il y a
ouais.
des cas de figure où il n'existe pas de normes. Il y a des cas de figure
okay.
où nous, on fait de la représentation pour qu'il y ait des normes.
D'accord.
Il y a des cas de figure où c'est des normes qui sont suggérées seulement. Le MTQ a un champ de compétences très très strict, très défini. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne concernent pas du tout le MTQ puis qui vont concerner beaucoup plus ou à 100% le milieu municipal.
Okay.
Dans ce cas-là, on développe quand même des connaissances et des expertises parce qu'il arrive que nos membres nous contactent pour avoir du support, pour avoir un coup de pouce, pour des fois juste avoir un avis externe.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr qu'en termes de représentation, on ne fait pas de représentation locale.
Okay.
On accompagne nos membres pour faire qui font des représentations plus locales, que ce soit municipales ou régionales. Et nous, on fait des représentations beaucoup plus au niveau national, au niveau du gouvernement du Québec.
OK. Puis est-ce que, si je pose la question à Yvon, est-ce que le RAM peut avoir besoin du RAC à certains niveaux de tes dossiers?
Absolument.
Oui.
Si, par exemple, il y a des enjeux par rapport à la... Là, on a évoquer la question de la norme sur les signaux sonores,
mm-hmm.
ben si au RAM on estime qu'il y a un enjeu par rapport à cette norme-là, des aspects peut-être de la norme qu'on souhaiterait qu'ils soient différents, ben c'est pas nous qui allons interpeller le ministère des Transports sur cette question-là. On va sensibiliser le RAC à nos préoccupations
okay.
en espérant que les autres associations partagent nos préoccupations et que le RAC décide d'amener ça pour discussion auprès du ministère des Transports. Donc,
okay.
Parfois, les gens disent « Ouais, mais comment ça que ça marche comme ça au Québec? » Bien, ça marche comme ça au Québec parce que, notamment sur les feux sonores, on a une norme qui est provinciale.
OK.
Mais si c'est ça. Si nous, on estime que cette norme-là
et pas,
pose problème,
et pas,
ben, c'est pas nous qui allons faire les représentations directement au ministère.
Okay.
Ça va être
Puis quand tu dis, quand on nous demande pourquoi ça se passe comme ça au Québec, est-ce que c'est par rapport au fait que ça se passe autrement ailleurs?
Non, pas nécessairement.
Okay, okay.
Des fois, c'est juste, ben oui, mais comment ça que je peux pas appeler ma ville puis demander un feu sonore?
Mm-hmm.
Ben, vous pouvez appeler la ville puis demander un feu sonore, mais il y a bien des chances que la ville vous réfère à votre centre de réadaptation parce que c'est comme ça au Québec que ça fonctionne. On peut être d'accord ou pas avec ce mode de fonctionnement-là, mais si on veut le changer, ben, ça sera pas à Montréal qu'on va le changer.
Ça va être
au ministère des Transports que ça va changer.
Okay. Puis quand tu dis ça se passe comme ça ici, est-ce que tu peux donner un exemple de comment, par exemple, ça se passe peut-être en Ontario ou aux États-Unis qui ferait que ce soit mieux ou pire qu'au Québec?
Non, j'ai pas de... C'est une des choses qu'on... c'est un petit peu un champ de qu'il faudrait explorer éventuellement pour mieux comprendre comment ça se passe ailleurs. Y a des avantages à notre fonctionnement au Québec, mais il y a probablement aussi des inconvénients, là. C'est ça, c'est un bout de la connaissance qu'on n'a pas puis qu'il va falloir qu'on approfondisse pour mieux comprendre comment ça se passe ailleurs.
OK. Le feu sonore, on pense peut-être que tout le monde connaît le feu sonore, le connaît bien. Alors, je pense que c'est un des éléments dont on voulait discuter aujourd'hui, puis ça sera peut-être un peu le point de départ pour la suite de notre conversation. On se fait un petit pont musical, une petite pause musicale, puis on revient, puis je continue de discuter avec Yvon Provencher du Regroupement des aveugles amblyopes du Montréal métropolitain et Antoine Perrault du Regroupement des aveugles amblyopes du Québec après cette petite pause. Bienvenue à l'antenne de Mission Vision, à l'antenne de Canal M. Je suis en compagnie de Yvon Provencher du RAM et Antoine Perrault du RAC. Et nous parlons de mobilité inclusive. Et notre premier peut-être sujet principal de cette discussion serait les feux sonores. Tout le monde a traversé une intersection achalandée un jour et a vu un feu sonore, mais je ne suis pas certain que tout le monde connaît le fonctionnement exact ou en fait de la façon dont un feu sonore va fonctionner pour une personne non-voyante ou malvoyante ou même une personne âgée. Alors, Yvon, je te laisserai peut-être nous décrire un peu plus techniquement et spécifiquement qu'est-ce qu'un feu sonore.
Oui, alors... Peut-être juste un petit récapitulatif pour quelqu'un, par exemple, qui peut-être serait un petit peu moins familier avec comment une personne aveugle ou malvoyante se déplace. On utilise essentiellement, pour les gens qui ont une basse vision, ils peuvent utiliser un petit peu plus la signalisation visuelle, mais pour quelqu'un qui ne voit pas du tout, nous, parce que j'en fais partie, on va utiliser le son. Donc, le son de la circulation automobile. Et ça va nous permettre de faire deux choses. Ça va nous permettre de déterminer le moment où on peut commencer notre traversée, mais ça va aussi nous permettre, pendant la traversée, de maintenir une trajectoire sécuritaire. On est capable de faire ça. Le feu sonore, il vient quand il n'y a pas suffisamment d'informations à une intersection ou que l'intersection dans son aménagement pose problème. Donc, ce que ça permet de faire, le feu sonore, c'est que ça a deux fonctions. Ça permet d'indiquer à la personne quand commencer sa traversée, parce qu'une personne aveugle malvoyante ne traverse pas à la mi-cycle. Là. Normalement, on attend le début du cycle d'un feu de circulation. Donc, le feu sonore va nous dire « OK, là, c'est le temps de partir ». Mais il va aussi nous permettre, pendant la traversée, de maintenir notre trajectoire. Parce que ça pourrait être facile de dévier de notre trajectoire. Donc, le feu sonore... C'est pour ça qu'au Québec, on a des feux sonores bidirectionnels, là, c'est-à-dire qu'ils alternent d'un côté à l'autre de la rue. L'intention derrière ça, c'était de fournir de l'information pour que les gens puissent traverser de manière sécuritaire. Donc, c'est ça que ça fait, un feu sonore.
Puis c'est ça que tantôt je parlais que peut-être on connaît pas toujours l'utilisation du feu sonore. Je parlais de mon expérience personnelle. Là, ça fait seulement un an que je travaille au RAM et j'ai mes problèmes de vision et tout, mais je savais pas moi. C'est vraiment avec les techniciennes de l'Institut Braille quand j'ai eu à avoir un cours sur le maniement de ma nouvelle canne blanche. Enfin, moins nouvelle maintenant, mais ce qu'on a beaucoup au Québec, c'est des feux sur lesquels le bouton sur lequel on va appuyer et qui va nous amener soit juste donner la. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'on appuyait là-dessus juste pour donner la présence d'un piéton veut traverser une intersection très achalandée où ça. Et je croyais que ça avait une incidence sur le fait que il va avoir la petite main, le petit bonhomme va apparaître parce que je le demande. Mais je connaissais pas le le appuyer près de 8 secondes pour quand c'en est un feu sonore, un véritable feu sonore, où il va avoir ce son, donc il va se promener d'un coin à l'autre pour guider la personne. Mais c'est ça, au Québec, on a beaucoup de ces intersections où il y a un feu, mais il n'est pas sonore. Est-ce que je me trompe?
C'est-à-dire que ce dont tu parles, là, c'est effectivement un feu piéton sur appel.
C'est ça. Merci de la précision.
Donc, ça, c'est t'appuies dessus, puis ça prend à peu près une seconde, puis là, éventuellement, tu vas avoir quelque chose qui va apparaître pour te permettre de traverser. La raison pour laquelle on a distingué, parce que ça arrive des fois qu'il y a des feux sonores installés au même endroit, la raison pour laquelle il faut appuyer plus longtemps sur le bouton du feu sonore, c'est pour éviter que les gens l'activent pour rien.
C'est ça, ceux qui n'en ont pas besoin.
Ceux qui n'en ont pas besoin. Alors, il faut appuyer, c'est entre 4 et 6 secondes, là, à peu près. Mais effectivement, dans le cas d'un... Puis Antoine pourra peut-être aller plus loin là-dessus, mais dans le cas où on a un feu piéton sur appel et que c'est le seul feu qui contrôle la circulation à cette intersection-là, ben là, on pourrait avoir besoin d'un feu sonore, mais je vais peut-être laisser Antoine expliquer un petit peu plus les cas de figure où on en a besoin.
En fait, il y a plusieurs cas de figure où un feu sonore peut être nécessaire. Je pense qu'Yvan en a parlé un peu tantôt. Hein. Le feu sonore au Québec, parce que c'est propre au Québec, cette norme-là.
Okay.
On est d'ailleurs un des seuls endroits au monde où on a une norme des feux sonores qui est directionnelle, donc qui permet à la personne de garder son alignement. Lorsqu'elle traverse, une des raisons pour laquelle on peut avoir besoin d'un signal sonore, c'est si on juge notamment que le bruit de la circulation parallèle ne permet pas à la personne de garder un alignement durant sa traversée. Ou de savoir quand traverser dans l'absolu.
Ouais.
Fait que ça, c'est une. Je passerai pas à travers toutes les, tous les cas de figure. Une autre des raisons qui pourrait requérir un signal sonore, c'est quand on pense à ce qu'on appelle des feux en mode protégé. C'est-à-dire qu'on appelle ça aussi des feux tout rouges. Il arrive jamais qu'un piéton va traverser en même temps qu'une automobile. C'est-à-dire que il y a un cycle, par exemple, automobile est-ouest, un cycle automobile nord-sud, et ensuite, il y aurait un cycle réservé aux piétons.
Okay.
Il y a des avantages à ça, notamment qu'on n'a pas... La personne ne peut pas, dans aucun cas, croiser une automobile lorsqu'elle se déplace,
okay.
Mais la circulation parallèle, elle est inexistante dans ces cas-là, ce qui fait que la personne ne peut pas attendre la circulation parallèle pour savoir quand traverser ou comment garder son alignement.
Okay. Est-ce qu'on en a beaucoup de ça au Québec?
Oui, ça dépend des régions. Il y a des régions qui fonctionnent avec ce mode de feu protégé-là, okay. D'autres où c'est moins courant.
Okay.
Fait que ça va vraiment varier selon les régions. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la norme demande à ce qu'un spécialiste ou une spécialiste en orientation mobilité fasse une évaluation de l'intersection. Et que dans cette évaluation-là, en fait, il va avoir une analyse de est-ce qu'il y a un besoin ou pas d'installer un signal sonore.
Okay.
Si ce besoin-là est constaté, il y a une recommandation qui est faite de la part du spécialiste ou de la spécialiste en orientation et mobilité. Et après ça, ben, c'est entre les mains de la ville qui va décider est-ce qu'on ajoute un signal sonore ou est-ce qu'on n'en ajoute pas.
OK. Donc, chaque ville va un peu avoir son fonctionnement un peu à ce niveau-là. Là.
Oui.
Alors, comment on fait la demande, oui. etc. Je ne sais pas si Yvon, tu peux nous parler peut-être de la réalité montréalaise pour commencer à ce sujet-là. Là. Comment on va définir quand on en installe un ou pas? Combien de temps ça peut prendre, puis pourquoi des fois ça veut, la municipalité le fera pas, ou etc. Je sais pas si tu peux me faire un petit peu un topo là-dessus.
Juste pour la petite histoire, là, pourquoi on a un feu directionnel au Québec, c'est des recherches qui avaient été menées à la fin des années, juste avant le début du 21e siècle, et le RAM était impliqué dans ces études-là. Donc, on n'a pas, ça n'a pas été comme inventé comme ça. Là, on a pensé qu'on va essayer ça, puis on va le faire. Il y avait vraiment des études qui ont démontré l'efficacité du feu directionnel. Là. Fait que c'est juste okay. Pour qu'on situe bien, il y a une raison très, très valable pourquoi nos feux sonores sont comme ils sont au Québec.
Okay.
Pour revenir à ta question plus spécifique sur le fonctionnement des villes, alors chaque ville a son propre fonctionnement. À Montréal, des feux protégés, là, il y en a à peu près pas.
Okay.
Et c'est pas un mode de gestion qui est utilisé à Montréal.
Okay.
C'est pas comme ça que la ville a choisi de contrôler ses, ça, ces intersections.
Ça donnerait trop, j'imagine, à l'origine, là, si je peux me permettre, ça donnerait trop l'impression qu'on donnerait trop d'importance aux piétons, aux vélos, parce que toutes les voitures seraient arrêtées. Ben, parce que j'ai l'impression que je le vois des fois, peut-être plus en Ontario, un petit voyage à Toronto, des trucs comme ça. Puis qu'à Montréal, c'est ça, c'est très rare. Là, que les... Parce que dans certaines villes aussi, les gens vont pouvoir croiser, traverser en oblique. Ils vont traverser en croisée les rues parce que justement, il n'y a plus de voitures qui avancent. C'est feu rouge pour les deux voies.
Oui, c'est exact. Pourquoi la ville de Montréal, là, je ne suis pas expert en histoire de la gestion des feux de circulation, je ne pourrais pas dire, mais si je compare à Québec, par exemple, au Québec, ce mode de fonctionnement-là, en tout cas dans le plus le vieux Québec, là, on va dire comme ça, là, c'est très, 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 très répandu comme mode de gestion, alors qu'à Montréal, il n'y en a à peu près pas.
OK.
Donc, chaque ville reçoit la recommandation. Et ça, l'étape de la recommandation du spécialiste en orientation mobilité, c'est incontournable. Là, toutes les villes au Québec doivent attendre cette recommandation-là. Il faut que ça passe par les mains d'un spécialiste en orientation mobilité.
Okay.
Et une fois que la ville reçoit la recommandation, ben là, elle peut décider d'installer ou pas. Alors,
excuse-moi, je veux pas t'interrompre, mais la recommandation, là, elle vient de qui? Peut-être des gens.
Du spécialiste en orientation et mobilité du centre de réadaptation.
Et donc, juste si on veut définir, d'en décrire certains, donc ça va être l'Institut Braille à Montréal.
Ou le MAB MacKay.
Du côté anglophone.
C'est-à-dire, c'est deux centres de réadaptation. Okay. Là.
Mais à l'extérieur de Montréal, Antoine, qui fait les recommandations?
À l'extérieur de Montréal, chaque région administrative a son centre de réadaptation.
OK.
Qui devrait inclure des personnes spécialistes en mobilité.
OK.
Donc, c'est pas différent de Montréal. Les centres de réadaptation vont changer.
C'est ça.
Chaque région administrative a un centre de réadaptation.
OK. Puis quand on parle de ces centres de réhabilitation, on parle vraiment d'un service qu'une personne non-voyante va avoir individuellement, là,
oui.
En général, c'est ça.
Oui,
hein?
Oui, oui.
J'habite tel quartier, j'ai tel déplacement à faire. Donc, le spécialiste va recommander qu'un feu sonore soit installé à telle ou telle place parce que ça fait partie du déplacement de la personne en particulier.
En fait, c'est la personne qui identifie une intersection où elle souhaiterait faire installer un feu sonore.
C'est ça.
Et c'est le spécialiste après qui fait l'analyse et qui fait la recommandation ou pas.
Parfait.
Une fois que la recommandation est faite, là, les villes peuvent avoir toutes sortes de raisons de les accepter ou non. Souvent, ce qui revient dans les refus, en tout cas pour Montréal, ce qui revient souvent, c'est ça a trop d'impact. Parce que quand un feu sonore est activé, il change, le feu sonore change la façon dont le feu de circulation va fonctionner.
OK.
Fait qu'il peut y avoir des interdictions de tourner, il peut y avoir... alors, ça modifie le feu. Si le feu sonore n'est pas utilisé, ben ce feu-là, il fonctionne normalement,
okay.
Mais quand on installe un feu sonore, là, ça vient changer la façon dont le feu fonctionne. Alors, ce que la ville va nous dire, c'est « Ah, mais il y a trop d'impact sur la circulation. Ça va créer des bouchons. »
Parfait.
L'argument qui est amené, c'est que ça a trop d'impact sur les flots de circulation automobile.
OK. Écoute, on fait une petite dernière pause et on vous revient au sujet de ces fameux feux sonores à Mission Vision. Je suis en compagnie de Antoine Perrault et Yvon Provenger.
Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud.
Alors, je suis toujours en compagnie de mon collègue Yvon Provenger qui travaille au RAM, au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, et Antoine Perrault, qui est directeur général, entre autres, au RAC, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Et on discute feu sonore et on va discuter d'autres sujets aussi. Mais juste pour terminer sur notre point sur le feu sonore, donc Yvon, tu nous disais, une personne doit faire une demande suite à suite à une recommandation par une instance, par exemple l'Institut Louis Braille à Montréal. Et donc la municipalité va accepter ou refuser ou...
Mais en fait, le rôle du spécialiste en orientation et mobilité est vraiment très, très important parce que quand la personne fait sa demande, l'analyse est faite en fonction de la capacité de la personne. Donc, ça se pourrait que le spécialiste dise « Ah, ben écoute, toi, t'es plus habile, donc t'as pas vraiment de feu sonore, je vais te faire un petit détour, puis tu vas pouvoir passer ailleurs, puis t'es assez habile, donc... » Alors, l'analyse est vraiment faite selon la personne qui fait la demande.
OK.
Mais ça peut être critiqué.
Je vous dirais que c'est quelque chose qui questionne énormément le RAC, d'ailleurs, parce qu'on sait que les spécialistes en orientation mobilité ont une approche très clinique des déplacements des gens, très individuelle. C'est un acte clinique.
Okay.
Pour le RAC, les signaux sonores, c'est quelque chose qui est social. C'est de l'accessibilité universelle. Puis c'est pour ça qu'on a de la difficulté à comprendre comment est-ce qu'on peut refuser un signal sonore sur la base qu'une personne n'est peut-être pas rendue là dans son cursus,
okay,
alors que ce signal sonore-là pourrait être utile à une dizaine d'autres personnes handicapées visuelles qui traverseraient à cet endroit-là.
Je dirais,
chose qu'on a beaucoup de difficulté à comprendre.
Puis je dirais plus que pour une personne handicapée visuelle, pour une personne âgée, une personne avec une poussette ou n'importe quoi.
C'est dans mon coin, il y a un feu sonore, puis c'est utilisé pas juste par moi.
C'est ça, effectivement.
Oui.
Donc, d'où, comme tu dis, Antoine, la question est plus globale que seulement un feu sonore pour un individu suite à une recommandation d'un spécialiste.
Surtout qu'au RAC, on a une position où on veut tendre à ce que il y a des signaux sonores à chaque fois qu'il y a un feu pour piéton. Puis ça, c'est quelque chose vers quoi on tend. Puis dans cette optique-là, c'est un peu ce que je disais tantôt. Pour nous, un signal sonore, c'est quelque chose qui est une mesure sociale.
Okay.
C'est pas une mesure clinique, c'est pas une mesure médicale.
Mm-hmm. Deux points qu'on pourrait amener peut-être rapidement. Un, entre autres, sur l'interdiction de tourner à droite à Montréal, mais la permission à l'extérieur du Québec. Ça, je pense qu'Antoine, tu peux nous glisser un mot là-dessus. Puis juste terminer, je sais que nous, souvent, les municipalités à Montréal, il va y avoir une plainte des voisins qui... Ça peut être un enjeu. Les voisins vont se plaindre du bruit que ça fait dans un quartier résidentiel où il y aurait un feu sonore. Je ne sais pas si Yvon, tu voudrais me laisser un petit mot rapide, mais Antoine, donc, au sujet de la permission de tourner à droite en région, qui fait qu'il rentre en conflit, si je comprends bien, avec l'installation d'un feu sonore.
Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on installe un signal sonore dans la norme, on doit absolument interdire le fameux VDFR, le fameux virage à droite au feu rouge.
Okay.
Et nous, ce qu'on entend de plus en plus en région, c'est qu'il y a des municipalités qui ne veulent pas installer de signaux sonores parce qu'ils ne veulent pas enlever le droit aux automobilistes d'effectuer un virage à droite au feu rouge.
Okay.
Soit l'acte de pouvoir tourner à droite, même s'il y a un feu rouge, évidemment en faisant un stop idéalement. Nous, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même une grosse nuisance pour l'installation des signaux sonores. Puis évidemment, okay, au niveau du bruit, on l'entend partout au Québec. Les municipalités répugnent à installer des signaux sonores parce qu'ils entendent que ça fait du bruit. Évidemment, il y a plusieurs raisons à ça. Notamment, puis on l'entend parfois, le fameux dispositif de localisation, là, soit le tac-tac-tac, parfois il est très mal réglé, beaucoup trop fort.
Okay.
Et là, c'est ce qui amène à des plaintes des gens. Mais il n'y a aucune raison qu'un signal sonore qui respecte la norme soit une nuisance sonore. C'est-à-dire que la norme définit des décibels que doivent pouvoir émettre ces dispositifs-là, que doit émettre le signal sonore pour qu'il soit audible en fonction du trafic. Mais si l'installation se fait bien, il n'y a aucune raison que le signal sonore soit un dérangement.
OK.
Ben, il y a peut-être une certaine explication, là, surtout si c'est des technologies plus vieilles qui sont utilisées. Le dispositif de localisation, là, si jamais vous avez déjà passé à côté d'un feu sonore, c'est la tonalité intermittente, là. Bip, bip, bip. Cette tonalité-là, c'est pas la tonalité du feu sonore, c'est juste, ça dit « je suis un feu sonore ». Fait que c'est juste pour signaler la présence. Feu sonore lui-même... c'est les quatre notes ou bien le coucou, là, dépendamment.
Okay.
Mais ce qui dérange, c'est pas tant le signal du feu sonore lui-même que le dispositif de localisation. Moi, je pense qu'il y a peut-être des enjeux technologiques là. Idéalement, il faudrait avoir quelque chose de plus performant que ce qu'on a là. Il y a des compagnies qui développent des produits, mais on n'a pas encore trouvé quelque chose qui marche super bien. Là.
OK.
Mais c'est sûr que c'est un enjeu.
OK. Si je parle de feu sonore et puis que j'amène sur le tapis le sujet de la piste cyclable, Est-ce que ça peut être quelque chose qui... C'est un sujet qui t'intéresse, bon.
Alors, ça dépend toujours de comment les pistes cyclables sont aménagées. On assiste depuis quelques années, là, je peux plus parler pour la région métropolitaine, surtout à Montréal, d'une accélération de tout ce qui est voies cyclables. Et là où ça pose problème, c'est quand on ajoute des aménagements des pistes cyclables, mais aussi l'aménagement des accès aux autobus de la STM.
Oui, OK. Oui.
Et là, on a des enjeux d'aménagement de ces pistes cyclables-là, notamment au quai, où il y a des autobus, mais pas que. Aux intersections aussi, il y a des enjeux, parce que quand la Ville a installé ces nouvelles voies cyclables-là, elle a aussi modifié ces cycles de feux de circulation, ce qui fait que on peut toujours utiliser la circulation automobile pour faire nos traversées, à tout le moins pour identifier le moment pour la commencer. Mais le problème, c'est que le feu, il est déjà vert. Il est déjà vert pour les cyclistes et pour les piétons. Donc, nous, quand on part avec la circulation automobile, on a déjà perdu 7 à 8 secondes là, sur le temps de traverser. Donc, dans des cas comme ça, il faut compléter ces aménagements-là avec des feux sonores. Mais c'est sûr que la question de l'aménagement des pistes cyclables, de manière plus générale, c'est un enjeu qui peut poser des défis pour les déplacements des personnes aveugles et malvoyantes. Ça, c'est clair, là. À Montréal, on le voit de plus en plus. Puis ailleurs, il y a aussi des exemples d'aménagements qu'il ne faudrait pas faire et que les villes font, en tout cas, Montréal, ils le font allègrement là, dans certains, pour certains types de pistes cyclables.
C'est ça, je peux me permettre juste techniquement là, d'expliquer la situation. C'est que la personne non-voyante va être sur le coin de la rue, va attendre la lumière verte pour que les voitures partent à sa gauche, entendre que la lumière est verte, elle va y aller. La personne, tu sais, elle peut traverser avec son chien guide, elle va donner le OK à son chien guide, on traverse. Mais la situation des pistes cyclables font que maintenant, quand la lumière tombe verte pour le piéton et les cyclistes, il y a seulement les cyclistes qui partent. Les voitures sont toujours arrêtées, mais la personne aveugle n'entendra pas nécessairement un vélo s'engager dans sa lumière verte.
Exact.
Et donc, le moment où la lumière va devenir verte pour les autos et que la personne aveugle va entendre les autos partir, il va déjà avoir du temps de perdu. Temps vient d'être limité pour sa traversée.
C'est exact.
Je pense que c'est quand même important de spécifier c'est quoi l'enjeu là, avec la piste cyclable.
Et pourquoi c'est important qu'on parle aussi des aménagements par rapport aux accès aux transports collectifs? C'est que l'approche qui est préconisée maintenant à Montréal, c'est qu'on relève la piste cyclable au même niveau que le trottoir. Donc là, il n'y a plus de distinction entre la piste cyclable et le trottoir, et donc la personne ne sait pas lorsqu'elle est dans la piste cyclable ou pas. Et juste pour en ajouter une couche, la Ville a décidé maintenant que sur ces voies cyclables-là, les autobus vont s'arrêter après avoir traversé les intersections plutôt qu'avant, on connaît. Alors, ce que ça fait, c'est que si le cycle est déjà vert... la rue où l'autobus circule, bien là, tu peux pas traverser la piste cyclable parce que tu as des cyclistes qui traversent en même temps.
Ils sont engagés. Eux ont eu leur lumière verte, ils ont traversé l'intersection et l'autobus est arrêté après l'intersection.
C'est exact.
C'est fou.
Et là, la Ville nous dit « Ah oui, mais il y a de la signalisation, puis les cyclistes vont comprendre qu'ils doivent ralentir. »
Non.
En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est pas ça que l'expérience démontre. En tout cas, on sait qu'à certains endroits, c'est pas comme ça que ça se passe. Là.
Puis Antoine, je sais pas si tu peux renchérir sur peut-être la situation à l'extérieur de Montréal.
Ce que Yvon constate à Montréal, c'est-à-dire qu'on installe de plus en plus de pistes cyclables. Moi, j'ai envie de dire, sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, on le constate partout au Québec. C'est sûr que c'est pas toutes les villes qui ont des politiques aussi ambitieuses que Montréal pour l'installation des signaux sonores. J'ai envie de dire, le RAC s'inquiète énormément parce que généralement, quand ça commence à prendre de l'importance à Montréal, quelques années plus tard, ça se retrouve partout en région. Mais on peut nommer déjà la Ville de Québec qui a des problèmes très, très similaires à ça. Quand on pense aux pistes cyclables au même niveau que les trottoirs, avec souvent aucune séparation physique entre la piste cyclable et le trottoir, mais ça fait que y a plusieurs enjeux, notamment qu'une personne qui utilise une canne blanche éventuellement risque de finir par dévier dans la piste cyclable et là se mettre en danger. Ça amène d'autres problèmes aussi, notamment le risque que les cyclistes plus rapides dépassent les cyclistes moins rapides en passant par le trottoir.
OK, ben oui.
Mettant ainsi en danger les personnes handicapées visuelles qui naviguent sur ce trottoir-là. Et ça, souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est utile pour deux raisons, notamment protéger les cyclistes des automobilistes, mais aussi réduire les coûts de déneigement d'une piste cyclable. Si c'est au même niveau, c'est plus facile de tout déneiger. Mm-hmm. Ceci étant dit, nous, ce qu'on répond à ça, c'est « Mais qu'est-ce que vous mettez en place pour garantir la sécurité des piétons?
Mm-hmm. »
Pour nous, la sécurité d'une personne handicapée visuelle qui navigue sur un piéton est plus importante que de réduire les coûts de déneigement d'une piste cyclable.
Mm.
Ça, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus, pas uniquement à Montréal, mais en région.
Okay.
L'autre enjeu qu'on constate que Yvon a commencé à discuter, c'est l'idée de dire, bon, on installe une piste cyclable sur une rue où il y a un arrêt d'autobus, ce qui fait que la personne qui débarque de l'arrêt d'autobus, bien souvent, elle va débarquer dans la piste cyclable. Et va devoir naviguer de la piste cyclable jusqu'au trottoir. Souvent, on sait qu'une personne handicapée visuelle va tendre sa canne blanche pour débarquer de l'autobus. Des risques de bris de canne, des risques de collision avec des cyclistes qui portent pas attention, mm-hmm. ou qui souhaitent pas arrêter ou qui veulent accélérer pour se dépêcher de passer avant que les gens débarquent. L'autre cas de figure, c'est les autobus qui vont arrêter dans la piste cyclable pour débarquer les gens sur le trottoir. Nous, ce qu'on entend dans ces aménagements-là,
ouais.
c'est qu'il y a beaucoup de cyclistes qui vont choisir de pas arrêter et de passer par le trottoir pour dépasser l'autobus.
Okay.
Ben là, encore une fois, risque de collision avec une personne qui débarque de l'autobus mm-hmm. sur le trottoir. On constate de plus en plus ce genre d'aménagement-là et les dangers que ça peut représenter pour les personnes qu'on représente.
Mm-hmm. C'est comme pas évident. Parce que c'est ça, on est parti du feu sonore, mais c'est ça, c'est quand même important, tout l'aspect de l'arrêt d'autobus sur la piste cyclable.
C'est parce
qui est pour tout le monde hein, aussi. Là, on n'est plus
sûr.
Dans juste la problématique d'une personne non-voyante.
Mais dans une optique où les villes, en tout cas pour Montréal, je lisais un document cet après-midi où la ville veut vraiment se positionne clairement comme elle veut être un leader de développement des réseaux cyclistes en Amérique du Nord.
Mm-hmm.
La question des déplacements actifs, là, quand on parlait tout à l'heure des transports collectifs, bien, c'est là que ça vient. Parce que si les interfaces sont mal aménagées entre les services de transport collectif et les structures pour se déplacer à pied, on se tire un peu dans le pied, là.
Okay.
Tu peux pas développer du transport actif si, transport collectif notamment, si tu sécurises pas les accès aux services de transport collectif. Et actuellement, okay. c'est ça le cas. Là.
Okay.
Les aménagements ne sont pas tout le temps sécuritaires.
Parfait. On prend une autre petite pause et même dernière petite pause, puis ben, peut-être qu'on peut revenir là, sur toutes les instances qui existent, toutes ces tables de concertation, comment ça fonctionne.
Mm-hmm.
Puis, voilà. À tout de suite. Toujours à Mission Vision. On termine cette rencontre avec Yvon Provencher du RAM, du Regroupement des aveugles amblyopes du Montréal métropolitain, et Antoine Perrault du RAC, du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Alors, on parle d'aménagement, on parle de mobilité inclusive. On a parlé de deux, peut-être, points assez importants à ce niveau-là, au niveau des aménagements, c'est-à-dire le feu sonore et la piste cyclable, mais on a peut-être moins parlé, mais comment ça se décide tout ça? C'est quoi nos rapports, nous, en tant que regroupement de défense de droits des personnes non-voyantes, avec les municipalités, même ou soit avec le gouvernement au niveau national ou provincial? Comment ça, dans ton quotidien, comme à ce niveau-là, Yvon, si tu peux nous les instances, les tables de concertation, comme dirait Yvon Deschamps, qu'est-ce que ça donne?
Ah, ça, c'est une grosse question, qu'est-ce que ça donne? Mais oh, ça, on pourrait faire.
Non, mais
on va faire
je
plus.
Blaguais,
je
là,
plus
mais...
Non, mais c'est une bonne question. Mm. À Montréal, il existe des. Alors, on a deux façons d'intervenir essentiellement. On en a une qui est où on intervient sur des projets précis, c'est-à-dire que des arrondissements parfois vont nous interpeller pour nous présenter des projets très, très détaillés. Il y a des travaux actuellement dans le coin du RAM. Moi, les plans de ces travaux-là, je les connais depuis à peu près 2 ans.
Okay.
Puis ça nous a permis de faire des recommandations pour améliorer l'accessibilité de ces aménagements-là. L'autre endroit où on discute de ça, c'est une instance qui s'appelle le Comité consultatif en accessibilité universelle. Ça, c'est une instance qui relève de la Ville de Montréal. C'est géré par des employés de la Ville, donc ça relève, c'est plus à l'administration municipale.
OK.
Et on se rencontre à peu près 6 à 8 fois par année, où là, vraiment, on va discuter de choses très, très, très précises. Et notre travail, c'est de développer des guides d'aménagement, des lignes directrices, des guides de bonnes pratiques.
Okay.
Donc, c'est ça qu'on fait. Et puis, on profite aussi des autres opportunités qui peuvent nous être données, des consultations publiques, des choses comme ça, pour aller porter le message des messages sur la mobilité inclusive.
Le déplacement.
Donner un exemple, là, on a au comité à Longueuil, on profite beaucoup de la démarche de leur plan d'action pour les personnes handicapées.
Okay.
Mais cette année, on va probablement utiliser, il devrait y avoir des consultations qui s'en viennent là, sur la mobilité, donc on va aller porter le message là aussi. À Laval, c'est à mettre en place.
Okay.
C'est pas encore organisé. Juste pour revenir à Montréal sur le comité consultatif dont je vous ai parlé, un des guides qui a été développé, c'est il existe à Montréal quelque chose qui s'appelle le guide de la mobilité durable.
OK, qui a été produit il y a quelques années, je pense.
Non, le guide de la mobilité durable, là, c'est gros. Là. C'est un gros guide qui contient plein de fascicules.
OK.
Et le fascicule 5, il s'appelle comme ça, lui, il porte sur les aménagements universellement accessibles.
OK.
Mais il fait partie de quelque chose qui s'appelle le guide de la mobilité durable. Et c'est intéressant que la Ville inclut la notion d'accessibilité universelle dans son guide de mobilité durable, mais pour le moment, ça n'a pas tant de portée, mais il y a quand même une ouverture, là. Il y a une façon de concevoir le guide de la mobilité durable. Ça devrait prendre en compte l'accessibilité universelle. Ça ne le fait pas tout le temps,
mm-hmm.
mais ça devrait.
Ça devrait. Disons, c'est supposé.
Bien, ça fait partie du guide de la mobilité durable.
OK. Alors,
quand on parle de mobilité durable, ça devrait inclure la notion des déplacements inclusifs.
OK. Puis ces concertations-là, là, qui peut participer? Est-ce que c'est seulement des regroupements, des lobbies? Ou
c'est des organismes. Alors, il y a... Non, à Montréal, il y a... c'est des organismes du milieu associatif des personnes en situation de handicap, dont nous, au RAM. Mais il y a aussi des spécialistes des centres de réadaptation en déficience visuelle qui siègent sur ce comité-là, plus des designers urbains puis des gens de la ville.
OK. Au niveau national, Antoine, est-ce qu'on peut retrouver ce même genre de concertation?
Il n'y a pas d'instance de concertation comme telle. Moi, j'aimerais ça faire du pouce un peu sur ce que Yvon vient de dire par rapport au développement durable. Je trouve ça vraiment intéressant parce que nous, ce qu'on constate au niveau plus national, c'est qu'il y a énormément de municipalités, d'instances qui vont utiliser la mobilité durable puis les principes de développement durable pour mettre de l'aménagement pour mettre de l'avant des aménagements qui vont mettre de l'avant beaucoup tout ce qui est transport actif,
mm-hmm.
tout ce qui est réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui vont complètement mettre de côté tout l'aspect d'inclusion sociale, tout l'aspect d'accessibilité universelle qui fait partie des théories de la mobilité durable puis des théories du développement durable. Puis c'est ce qu'on essaie de mettre le plus possible de l'avant au RAC. Quand vous faites des aménagements, si ces aménagements-là favorisent par exemple le vélo, par exemple la marche, mais que ces aménagements-là ne sont pas accessibles aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles, ben vous manquez complètement le bateau de la mobilité durable puis du développement durable. Vous appliquez uniquement une petite partie de c'est quoi le développement durable.
Mm-hmm.
Puis c'est souvent ça que nous, on rencontre au niveau plus national. On entend énormément d'acteurs qui vont dire « Oui, mais ces aménagements-là, c'est extrêmement bon pour le vélo. Ces aménagements-là, il faut les mettre de l'avant. C'est bon pour Bon, ben tant mieux si c'est bon pour le vélo, mais s'ils mettent en danger d'autres populations, on n'est pas gagnant personne.
Ben oui. C'est... Puis en même temps, on est toujours un peu dans toute la complexité de l'accessibilité universelle aussi, où c'est difficile de...
Évidemment. Ce qu'on essaie de faire pour apporter une pierre à l'édifice de l'accessibilité universelle et du développement durable et de la mobilité durable, ben c'est de travailler sur un guide qu'on est en train de développer. C'est sûr que c'est long, un guide à développer. On va essayer d'être le plus novateur possible. Je pense qu'un peu tout le monde qui travaille dans le milieu entend parler d'une multitude de guides. Des guides, il en existe énormément. Le RAC essaie pas de révolutionner le modèle du guide. Je pense qu'il y a des guides qui sont très bien faits. Ce que nous, on constate au RAC, c'est que la majorité de ces guides-là manquent l'aspect « faites attention, prenez en considération les besoins des personnes handicapées visuelles ».
Ouais, peut-être.
Souvent, ces guides-là vont mettre beaucoup de l'avant les vélos, vont mettre beaucoup de l'avant les piétons, mais la spécificité « personnes handicapées visuelles », elle n'est pas là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un guide très court. C'est quasiment un ajout, un annexe à un guide qui existe déjà. Okay. Nous, le message qu'on veut envoyer, c'est « prenez votre guide ». Utilisez votre guide, mais rajoutez-y ce 10-15 pages-là pour que quand vous allez faire un aménagement, quand vous allez sélectionner dans ces guides-là des aménagements, quand vous allez vous en inspirer, ben vous n'oubliez pas les besoins des personnes handicapées visuelles.
Mm-hmm.
Puis, un exemple très concret que je peux vous donner, parce que je trouve que c'est un exemple qui est intéressant, il y a beaucoup de municipalités qui vont, plus sans parler de trottoirs au même niveau ou d'enjeux plus techniques, il y a beaucoup de municipalités qui vont dire, bon, mais parfait, à cet endroit-là, piste cyclable. Excellent. Ben maintenant, avec la piste cyclable, on met des interdictions de stationnement, on met des interdictions de ci, de ça. Ça fait que le transport adapté ne peut plus arrêter sur cette rue-là.
Mm-hmm.
Mais s'il l'avait su d'avance, peut-être qu'il aurait repensé cet aménagement-là pour s'assurer de trouver une façon que le transport adapté puisse continuer à desservir les gens qui habitent sur cette rue-là.
Mais en même temps, c'est quand même incroyable qu'on soit en 2022, en 23 ou en 24, qu'on fait un aménagement puis qu'on pense pas à cet aspect quand même important. Puis faut le dire aux gens, les gens pensent souvent que le transport adapté, c'est un petit autobus. Là. Mais sur l'île de Montréal, 75% du transport adapté, c'est un taxi, c'est de simples taxis qui va amener la personne.
Minimum.
Minimum, hein?
Minimum.
Donc, comment on peut donc faire des aménagements où on prend pas en considération qu'on descend d'un autobus, ou enfin on le fait, mais on le fait pas bien, puis où on débarque justement des personnes handicapées qui utilisent un service comme celui-là?
C'est des bonnes questions qu'on se pose, puis c'est pour ça, en fait, qu'on fait ce guide-là, parce qu'on a réalisé que ben, il n'y en a pas de guide qui présente ces affaires-là. Ou du moins, il y en a, mais ils doivent être très peu utilisés, peut-être parce qu'ils sont trop lourds, peut-être parce que on a fait une revue assez extensive de ce qui existait. Puis ce format-là, d'une dizaine, quinzaine de pages très simples, qui peut se greffer à un autre guide plus complet, semble être l'outil qui a le plus de chances d'être utilisé par les gens responsables des aménagements dans les villes. Fait qu'on croise les doigts que ce soit un peu comme je disais, la pierre à l'édifice qui manque pour que les gens commencent justement à réaliser puis à ne pas oublier que les aménagements en mobilité durable, s'ils sont pas bien faits, ben ils risquent de créer beaucoup d'exclusions.
C'est ça, c'est ça, exactement. Puis par exemple, à la ville de Montréal, Yvon, tu m'avais parlé qu'il y avait un guide qui existait depuis, qui datait de 2018-2019, mais que à toutes les fois, tu te retrouvais sur une table ou un instant, si tu le citais, il existait, mais il était un peu...
La ville a un gros enjeu de...
Invisible.
Elle a un gros enjeu de transfert de connaissances, c'est-à-dire que d'abord, c'est une énorme structure, Montréal, et
le Québec entier... Ce sont des grandes structures.
Oui,
là,
mais ça dépend. Il y a des villes qui sont plus petites, puis c'est peut-être plus facile à faire. Mais à Montréal, c'est sûr que la ville a un enjeu de transmission des connaissances. Donc, on développe des guides, on développe des lignes directrices, des guides de bonnes pratiques. Mais si après, ce n'est pas disséminé à travers l'appareil municipal, finalement, ce n'est pas connu. Ça, c'est le premier enjeu. L'autre enjeu, après, c'est si c'est connu, pourquoi ce n'est pas utilisé? Puis là,
c'est peut-être là que
il va y avoir des questionnements là aussi.
Okay.
Là.
Fait que c'est là qu'on va espérer que le guide du RAC prenne peut-être une place là, qui semble être importante. Puis qui non seulement prennent sa place, mais deviennent effectifs. Et puis, dans combien de temps à peu près, Antoine, ce guide-là devrait être disponible?
Si tout va bien, on va pouvoir le rendre public là, un an et demi, deux ans à peu près.
OK. Alors, on a donc des guides qui existent qui sont pas nécessairement appliqués. On va, en tout cas, au niveau de l'accessibilité, on s'entend pour les personnes non-voyantes, malvoyantes. Et puis, on va espérer que peut-être un nouveau guide, lui, va avoir un impact un peu plus à long terme. Je terminerai ben, peut-être en vous demandant chacun peut-être un dossier sur lequel, là, rapidement, ils vont peut-être à venir ou qui est connexe à notre discussion qui serait qui pourrait être intéressant à noter.
Oui, celui qui va mobiliser beaucoup de mon énergie cette année, ça va être, en parlant de guide, on va effectivement travailler au comité consultatif en accessibilité universelle à Montréal sur des lignes directrices pour l'aménagement des réseaux cyclables là, okay. À la nouvelle mode, là, si je peux dire. Là. Fait qu'on va travailler là-dessus cette année.
OK, parfait. Puis toi, Antoine, peut-être en 10-20 secondes, une dernière.
Je vous dirais, au-delà des pistes cyclables et des signaux sonores, il y a aussi tout ce qui est les enjeux reliés aux rues partagées
okay.
qui nous inquiètent énormément et qu'on va continuer à suivre avec assiduité. Là.
OK, ben parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, Yvon Provencher du Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain et Antoine Perrault du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Je remercie Mathieu, notre technicien. Et c'est ça, vous pouvez consulter les sites du RAM et du RAC si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les sujets dont on a discuté aujourd'hui. Et puis, je vous dis à une prochaine émission de Mission Vision. Merci.
Cette émission est une production de Canal M, en partenariat avec le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain.